France Inter.
Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les crues sans fin, nouvelle montée des eaux attendue dans l'ouest cet après-midi. La ville d'Angers prend des mesures, nous sommes sur place dans un instant. Il faut aussi ravitailler tous ceux qui refusent les évacuations. Nous irons dans le Lot-et-Garonne et puis nous verrons quels sont les outils qui permettent aux autorités de jouer sur le niveau des cours d'eau. Ça s'appelle les délestages. À suivre encore, la mort et l'enquête sur la mort de Quentin de Ranque à Lyon. Des suspects identifiés, pas d'interpellation. Le ministre de l'Enseignement supérieur lui donne des consignes pour encadrer les réunions politiques à l'université, mais elles ne devraient pas changer grand-chose. À la une également, la mort du pasteur noir américain Jesse Jackson. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
En direct des États-Unis, c'était une figure de la lutte pour les droits civiques.
Oui, Jesse Jackson, militant des droits civiques auprès de Martin Luther King, devenu lui-même une figure et une conscience politique aux États-Unis depuis les années 70.
À tout de suite, nous vous retrouverons en direct des États-Unis. Nous verrons que les Ukrainiens également viennent de reprendre beaucoup de terrain aux Russes grâce au coup de main d'Elon Musk. Et puis cette première médicale dans ce 13-14 à Strasbourg, un fœtus opéré d'une tumeur vasculaire dans le ventre de sa mère, qui va bien ainsi que le bébé. Et on le retrouvera dans un reportage dans quelques minutes. À partir de 13h30, deux médailles d'or dans ce studio. Celle des patineurs Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, champion olympique de danse sur glace la semaine dernière aux Jeux d'hiver. Vous êtes des millions à avoir assisté à leur titre. Alors j'attends vos questions. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. Les annonces sonores que l'on entend dans les transports en commun. Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Le metteur en scène Thomas Quillardet demande Mylène Farmer.
Si je prends du recul sur tout l'univers de Mylène, c'est quand même la douceur qui arrive pour moi en premier. Peut-être plus parce qu'elle me procure.
Ce sera avec Julien Baldacchino. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est le dernier département à avoir basculé en rouge hier en raison du risque de crue. Le Maine-et-Loire, traversé comme son nom l'indique par deux fleuves qui débordent en ce moment, la Loire et la Maine qui traversent la ville d'Angers, 165 000 habitants. La Maine atteint même des niveaux jamais vus depuis 25 ans et le niveau va continuer de monter, dit le maire d'Angers. Bonjour Sarah Mansoura.
Bonjour.
Vous êtes sur place, voilà pourquoi le maire d'Angers prend des mesures de prévention.
Et oui, pour protéger la population, à Angers, plusieurs stations de tramway et des parkings ont été fermés. Les voies sur berge sont interdites à la circulation. La Maine, en effet, est sortie de son lit sur plusieurs secteurs. Des niveaux de crue jamais atteints depuis 25 ans, selon le maire d'Angers, Christophe Béchu. La mairie a donc activé un dispositif de prévention renforcé, surveillance continue des berges et mobilisation des services municipaux. Pour rappeler qu'il ne faut surtout pas s'engager sur des routes inondées, limiter ses déplacements et bien sûr protéger quand c'est possible les caves et les parkings souterrains. Selon Vigicru, les niveaux doivent continuer à monter, tant sur la Maine que sur la Loire voisine. On devrait ce soir encore se rapprocher des niveaux de la crue de 1994, voire de 82. Pour l'heure, ce pic n'est pas encore atteint, donc pas d'évacuation massive, mais surveillance renforcée, car de fortes pluies sont attendues sur des sols et des réseaux d'eau usés saturés, et d'autant que de forts coefficients de marée ces prochains jours vont encore gêner les écoulements fluviaux.
Merci Sarah Mansoura pour ces dernières informations en direct d'Angers. J'annonce que la SNCF nous prévient de nombreux retards et suppressions de trains dans les prochains jours et dans les prochaines heures sur les lignes SNCF Nantes-Angers et Angers-Cholet. Au-delà de l'ouest, le sud-ouest est aussi sous les eaux. Bassin de la Garonne, la Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours en vigilance rouge. Là encore, le niveau continue de monter, mais d'ores et déjà, des habitations se retrouvent cernées par les flots. Exemple à Saint-Bazeille, près de Marmande, où des bénévoles ravitaillent par bateau les personnes qui sont prises au piège et qui refusent d'être évacuées. Reportage Faouzi Trita.
Jean-Claude, gilet orange sur le dos, tient fermement la barre du bateau à moteur. Il est concentré sur sa trajectoire. Il navigue sur la route inondée.
Ah ben là, je me repère au poteau téléphonique. On connaît la plaine à peu près, ça va.
Tout autour de l'eau marron, on aperçoit l'extrémité d'un panneau stop, des branches, mais le bénévole n'a pas le temps d'admirer le paysage.
S'il en faut des commissions, des courses ou comme ça, bon, on va les chercher, puis on le ramène sur place. Quoi.
Pourquoi vous êtes dévoué comme ça?
C'est bénévole, c'est du bénévolat qu'on fait.
Bonjour.
Jean-Claude arrive chez David et Oran. La maison c'est du couple calme. Est entourée d'eau. On a la sensation d'aborder une île.
C'est sûr que c'est assez choquant. On s'endort, on se réveille, il y a de l'eau partout. C'est là, on verra comment ça se passe.
À l'intérieur, Oran cuisine.
Là, je suis en train de faire une quiche.
Elle range les courses qu'il vient de livrer.
Ils viennent nous voir tous les jours. On nous apporte quelque chose à chaque fois, de l'eau, du pain de mie, du lait, enfin, on est hyper bien entouré, quoi.
Jean-Claude repart.
Je reviens à vous voir et puis s'il y a besoin, vous appelez. Si vous avez des trucs qui vous manquent, entre-temps, vous appelez à la mairie pour que je vous les porte demain matin.
Merci beaucoup.
Et tant qu'il y aura des sinistrés, ils pourront compter sur lui.
Fawzi Trita dans le Lot-et-Garonne pour Inter. Alors dans tous ces bassins, que ce soit la Garonne ou la Loire, il faut gérer l'écoulement des eaux. Et pour cela, les autorités disposent d'ouvrages construits sur les fleuves, des déversoirs, des écluses par exemple, qui permettent de ralentir l'écoulement des eaux. Un dispositif piloté en temps réel. Illustration en Charente-Maritime, département en vigilance orange. Aujourd'hui, Marie-Laurence Dalle s'est rendue à Angoulins.
Ici, 4500 mètres cubes d'eau par seconde venus des marais de Châtelaillon et Saint-Vivien se déversent dans la mer. Un débit actuellement assez fort. Nous sommes devant le déversoir de l'Anse de Saint-Jean-des-Sables à Angoulins.
Le risque, c'est quand on n'arrive pas à évacuer, c'est que derrière, on dit que ça pousse, quoi, parce que l'eau, elle arrive de beaucoup plus loin. Elle va arriver de gros lots, elle va arriver des gros feuilles.
Didier Roblin est le vice-président en charge du programme de prévention des inondations dans l'agglomération rochelaise.
Le souci, c'est que là, on va rentrer dans une grande marée. Donc le temps d'évacuation, il est réduit. De 16-17 heures, on va passer qu'à 12 heures. Vous voyez, il y a un clapet anti-retour et ça ne s'évacue plus. Le temps que la mer est haute, vous enlevez 4 heures à 4000 mètres cubes heure.
C'est là que pourraient se produire des inondations. Pour l'éviter, il faut gérer la situation en amont. C'est ce que font actuellement les services de l'agglomération rochelaise.
On sait qu'à une certaine cote, il y a un bassin qui va être saturé. Celui qui est un petit peu plus loin, lui, n'est pas saturé ou entièrement. Donc, on fait des délestages. Mais on n'a pas le droit à l'erreur, comme ici. Si on avait une panne, vous voyez, on ne pourrait pas être deux jours sans évacuer. C'est tendu. Il y a une maintenance, c'est très, très suivi. Et aujourd'hui, les cotes sont prises tous les matins par les services de la CDA.
Mais une chose est sûre, s'il n'y avait pas de gestion de l'évacuation des eaux dans l'agglomération de La Rochelle...
On aurait le pied dans l'eau.
Tous ?
Ah oui, beaucoup.
Reportage ici La Rochelle. J'ajoute département du Nord sur la commune de Coussolre, près de la frontière belge. Ces très fortes rafales de vent la nuit dernière qui ont arraché de nombreuses toitures ainsi que des arbres. Mais il n'y a pas eu de victimes et puis toujours un fort risque d'avalanche en montagne dans les Alpes. Les deux Savoies en vigilance orange. Prévision météo complète et indispensable dans une vingtaine de minutes. Dans l'actualité de ce mardi également, les suites de la mort de Quentin de Rang, ce militant identitaire, battu à mort jeudi soir dans une rue de Lyon en marge d'une conférence à Sciences Po de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Au moins 6 agresseurs masqués et cagoulés ont été identifiés par les enquêteurs, mais pas d'interpellation à ce stade. Hier soir, Sciences Po Lyon a réagi à cette agression, affirmant que les services de l'État avaient, je cite, été informés en amont de la tenue de cette conférence. Et ce matin sur France Inter, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, a mis en cause le dispositif de sécurité choisi par la préfecture du Rhône. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes l'un de nos correspondants à Lyon. Christophe, quel était le dispositif prévu par les autorités jeudi soir ?
Eh bien, les services de l'État étaient au courant de la venue de Rima Hassan, prévenue par la direction de Sciences Po, qui avait affecté plus d'agents de sécurité privés en raison du caractère sensible de la conférence. Les participants avaient dû s'inscrire à l'avance. Dans les ruelles proches de l'amphi sont déployés une trentaine de policiers non visibles, dont une quinzaine d'hommes de la compagnie départementale d'intervention. À 17h30, les autorités apprennent qu'à l'université Lyon 3, à 2 km de là, une vingtaine de manifestants d'extrême gauche ont envahi un amphi où était attendu l'historien contesté Guillaume Ancel. À Sciences Po, tout est calme. La compagnie d'intervention est donc envoyée à la fac, remplacée vers 18h par 60 CRS. Entre-temps, les équipages de la BAC sont alertés de frictions autour de l'action du collectif identitaire Némésis derrière Sciences Po. À leur arrivée, les protagonistes se sont volatilisés. La police est prévenue d'une autre rixe tout près, rue Victor Lagrange. Quand elle s'y rend, les groupes rivaux sont déjà partis, y compris Quentin. Pendant la conférence de Rima Hassan, aucun incident à signaler à Sciences Po comme aux abords, où les CRS sont restés postés de 18h à 21h.
Christophe Vincent à Lyon pour ces informations. Justement, tout est parti donc de cette conférence jeudi soir à Sciences Po Lyon, à laquelle des militantes identitaires, vous y faisiez référence, Christophe, ont voulu s'opposer. Pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, demande désormais aux présidents et présidentes d'université d'interdire complètement ces réunions politiques, mais en cas de risque de trouble à l'ordre public. Bonjour Laurélie Carrive.
Bonjour.
Ça n'était pas le cas jusqu'à présent?
Eh bien si, en fait, pour bien comprendre, il faut savoir que les facs ou les IEP sont libres d'accueillir des réunions politiques dans leurs locaux. C'est écrit dans la loi au nom de la liberté d'expression et d'information sur les sujets politiques, donc économiques, socioculturels. Les organisations étudiantes déposent donc des demandes pour réserver une salle. À Sciences Po Lyon, c'était l'association Euroca. En général, il faut préciser l'identité des intervenants qui sont invités, le nombre de participants, etc. La demande est alors examinée par les services de l'université.
Et c'est là qu'on en vient à la notion de risque de trouble à l'ordre public.
Oui, qui peut justifier de rogner sur cette liberté fondamentale qu'est la liberté d'expression, sauf qu'il est complexe à évaluer, avec le risque pour l'université d'être ensuite désavoué par la justice. On peut citer l'exemple de Paris Dauphine. Printemps 2024, la direction interdit une conférence de Rima Hassan, organisée par le comité Palestine-Dauphine. Interdiction annulée par le tribunal administratif. Alors qu'à l'inverse, quelques mois plus tard, le Conseil d'État avait confirmé l'interdiction d'une conférence de Rima Hassan, toujours à Sciences Po Paris, prenant en compte le fait que l'eurodéputé avait appelé à bloquer l'IEP.
Si on doit résumer, Laurélie?
Eh bien, la circulaire envoyée par le ministre ne change pas les règles, mais souligne le contexte très particulier, très tendu avec la mort de Quentin Derenck, ce qui pourrait consolider l'assise juridique des facs qui déciderait d'interdire certaines réunions politiques.
Merci Laurélie Carrive pour ces précisions. Ces dernières heures, une nouvelle permanence d'un candidat insoumis a été taguée à Belfort et cet après-midi, 15h, une minute de silence sera observée à l'Assemblée nationale par les députés en hommage aux jeunes militants d'extrême droite. À Nîmes, dans le Gard, un enfant de 8 ans est mort ce matin, fauché par un chauffard. Cela s'est passé près d'un arrêt de bus. Le véhicule a pris la fuite, mais un suspect âgé de 17 ans a été arrêté par la police au domicile de ses parents. C'était aux alentours de midi, information de nos confrères d'ici Gare-Lozère. Ce jeune est suspecté d'avoir fauché cet enfant avant de prendre la fuite.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est un pan de l'histoire américaine de ces 50 dernières années qui s'en est allé la nuit dernière avec la disparition de deux figures américaines. Le documentariste Frederick Wiseman, 96 ans, qui a passé sa vie à documenter la vie des Américains à l'hôpital ou encore dans les magasins. On va en parler dans un instant. Et puis la disparition du pasteur noir américain Jesse Jackson, 84 ans, compagnon de route de Martin Luther King dans les années 60, inlassable militant pour l'égalité des droits aux États-Unis et dans le monde. Il avait aussi créé la polémique en 2008 en espérant que l'élection de Barack Obama mettrait fin, je cite, à l'influence des sionistes sur la politique américaine depuis des générations. Laurent Kramer, on vous retrouve en direct des États-Unis. Jesse Jackson fut aussi un candidat à l'élection présidentielle américaine.
Oui, bien au-delà d'être l'une des dernières grandes figures historiques des droits civiques ici aux États-Unis, Jesse Jackson était une figure politique du Parti démocrate dans les années 80. Il incarnait ce rêve d'une candidature noire à la Maison-Blanche face à Ronald Reagan, arrivé second lors des primaires démocrates de 84 et 88. Il est alors 30 ans avant Barack Obama, le premier homme politique afro-américain à entrouvrir la porte. Car dès les années 70, Jesse Jackson était déjà une figure du militantisme et de la culture afro-américaine des droits civiques, icône médiatique également, surnommé le Black Pope par la presse aux États-Unis. Il impose une autorité morale et un discours sur les droits économiques pour la jeunesse afro-américaine en organisant par exemple le boycott des grandes entreprises aux États-Unis pour qu'elles embauchent davantage les jeunes afro-américains. Avant ce combat politique, Jesse Jackson était considéré comme l'un des héritiers spirituel de Martin Luther King, dont il était proche dès 1965, créant alors ensuite son propre mouvement après l'assassinat du révérend en 1968. Au fil des années, Jesse Jackson souhaitait incarner cette conscience politique pour rassembler le peuple américain avec une coalition arc-en-ciel bien au-delà des droits civiques. Sa famille annonce des commémorations publiques. À Chicago, sa ville natale, sa disparition intervient ici en pleine célébration de l'histoire de l'héritage afro-américain et des personnes noires aux États-Unis. États-Unis. Atlanta, Laurent Kramer, France Inter.
Et Emmanuel Macron avait remis la Légion d'honneur en 2021 à Jesse Jackson. Quant à Frédéric Wiseman, 96 ans, il est donc mort hier soir. Bonjour Ilana Mor-Youssef.
Bonjour.
Bonjour Ilana.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut vous entendre ?
Je crois, oui.
Voilà, c'est bon. Ilana, le grand public connaissait peu, le grand public français connaissait peu Frédéric Wiseman. Une cinquantaine de films, il a porté un regard acéré sur les institutions américaines. Il a aussi inspiré les plus grands cinéastes.
Oui, comment devient-on Frédéric Wiseman ? Certainement pas en faisant une école de cinéma. Wiseman a commencé par étudier puis enseigner le droit. Il n'aimait pas ça. Il a déjà 35 ans quand il se lance dans la réalisation de son premier documentaire, Titicut Follies. Wiseman y montre la vie quotidienne dans un hôpital pour malades mentaux criminels. On est en 67, le film est interdit. Il ne sera montré au public qu'au terme de 24 ans de bataille judiciaire. Mais tout son art est déjà là. Il enchaîne les prises de vue sans jamais intervenir, sans poser de questions. C'est au montage que se révèle l'architecture du film. Discours de la méthode, au micro de Laure Adler sur France Inter en 2017.
L'expression de mon point de vue, c'est dans la structure du film, dans la sélection et dans l'ordre. J'ai essayé de faire le montage comme un écrivain. Toutes les séquences sont passées sans aucune intervention de mon part. Mais la structure est complètement fictionnelle.
Il filmera de cette façon un lycée, un commissariat, un centre commercial. À partir des années 90, son œuvre sort des frontières américaines. Ce sera la Comédie Française, la National Gallery à Londres ou encore l'Opéra de Paris en 2014. Au bout de deux tentatives, il réussit à convaincre Brigitte Lefebvre, à l'époque directrice de la danse.
Il est venu pendant plus de 3 mois, 4 mois. Il prévenait quand il arrivait. Et puis poser sa caméra, et au bout d'un moment, ce qui est vrai, c'est qu'on l'oubliait complètement. Mais complètement. Il n'a jamais gêné personne. Donc ça fait quelque chose de tout à fait étonnant. D'ailleurs, ce que j'avais beaucoup aimé chez lui, finalement, c'est son côté beatnik ultra bosseur, quoi. C'est un voyageur du regard.
Son œuvre monumentale, 46 films au total, constitue une sorte de comédie humaine au cinéma. En 2017, Frédéric Wiseman avait reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.
Portrait signé Ilana Mor-Youssef à Genève, en Suisse. Les négociations ont débuté ce matin entre Américains et Iraniens. Les États-Unis menacent toujours l'Iran de frappe. S'ils ne consentent pas à un accord sur le nucléaire, le guide suprême iranien Ali Khamenei a menacé ce matin que le porte-avions américain, qui est en ce moment dans le Golfe, ne soit coulé. Fin de citation. Genève qui est aussi le cadre d'autres négociations entre Russes et Ukrainiens au moment où l'armée ukrainienne a repris plus de 200 km² à l'armée russe. Chiffre communiqué par l'Institut pour l'étude de la guerre qui fait référence. C'est la première fois que Kiev reprend aussi vite autant de territoire depuis sa contre-offensive de 2023. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
L'explication se trouve du côté des satellites. Les satellites Starlink d'Elon Musk que Moscou ne peut plus utiliser.
Oui, cette contre-attaque est en effet fulgurante. En 5 jours, les Ukrainiens ont repris autant de terrain que ce que les Russes avaient mis 1 mois à conquérir en décembre. Or, rien en effet n'aurait été possible sans le coup de main d'Elon Musk qui, début février, à la demande du ministre de la Défense ukrainien, a déconnecté tous les terminaux utilisés par les Russes. Ça veut dire que les communications tactiques ont été interrompues, que les drones ont dû repasser au pilotage radio et qu'ils sont redevenus vulnérables au brouillage électronique. Ça veut dire aussi qu'ils ont perdu la précision que leur apportaient des images satellites en temps réel, y compris sur des cibles en mouvement. Dès le premier jour de coupure, l'état-major ukrainien disait avoir noté 2 fois moins d'attaques ennemies. La Russie n'a pas de technologie équivalente. Ça fait des années que Moscou cherche à construire son propre système satellitaire sans succès, avec ses 9600 satellites. SpaceX, entreprise privée, contrôle l'ensemble de ce service essentiel. Et c'est aussi une dépendance stratégique majeure pour Kiev, qui a officiellement remercié Elon Musk, tout en restant très méfiant, tant le milliardaire américain s'est par le passé montré conciliant envers la Russie. Volodymyr Zelensky lui-même l'a reconnu. L'Ukraine cherche des solutions alternatives, mais il lui est toujours impossible à elle aussi de faire sans Elon Musk.
Isabelle Labéry, il y a 1 mois, la marine française avait arraisonné un pétrolier, le Grinch, en mer Méditerranée, suspecté d'appartenir à la flotte fantôme russe. Ce navire va pouvoir quitter le port de Fos sur mer, annonce le ministre des Affaires étrangères. Mais après avoir versé plusieurs millions d'euros, le propriétaire du pétrolier a en effet été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité pour avoir oublié de justifier la nationalité de ce bateau. Il a donc accepté de payer. Lui a payé ses liens d'intérêt avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Jack Lang, démissionnaire de la direction de l'Institut du Monde Arabe, il est remplacé par une diplomate proche d'Emmanuel Macron, dont elle est en ce moment l'une des conseillères, Anne-Claire Legendre, 46 ans, devient la première femme à diriger l'Institut du Monde Arabe. Le président français Emmanuel Macron, qui est en visite en Inde, il est arrivé ce matin, il s'exprime en ce moment aux côtés du Premier ministre indien Narendra Modi, et Emmanuel Macron estime que ni la France ni l'Inde ne veulent subir d'hégémonie ni la conflictualité de quelques-uns. Fin de citation. C'est un dossier dans lequel les plaintes s'accumulent, celui des violences physiques et sexuelles envers des enfants dans le périscolaire à Paris. On a appris hier que 9 agents de la ville avaient été suspendus fin janvier pour suspicion de violences physiques et sexuelles commises dans une école maternelle du 7e arrondissement de la capitale. Bonjour Sarah Guibaudeau.
Bonjour.
Et cela fait suite aux révélations de l'émission Cache Investigation sur France 2.
Oui, dans le documentaire, les visages sont floutés, mais certains agents ont été identifiés. Cette immersion de France 2 a révélé plusieurs dérives.
Nous demandons à Maria, journaliste, de postuler comme animatrice périscolaire.
Des personnels qui crient sur les enfants, une animatrice qui fait des baisers sur la bouche, le tout filmé par la journaliste qui s'est fait recruter sous une fausse identité, sans aucune formation. Pour des parents du 7e arrondissement, ce documentaire a été un déclencheur. Ils sont 73 à avoir porté plainte. Leur avocat est Florian Lastel.
À l'école publique, comme vous le savez, il y a une présomption de sécurité. Mais clairement, cette présomption a été renversée, elle a été pulvérisée à la suite de ce documentaire. Il y a la preuve de violence physique, au moins d'une agression sexuelle, avec un baiser sur la bouche d'un enfant de petite section. Il y a la preuve que des gens ont été recrutés pour assurer la sécurité des enfants, alors qu'ils sont incompétents, voire dangereux.
Les parents ont aussi sollicité la mairie du 7e et la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance qui recrute les animateurs pour avoir des explications sur les suites données à de précédents signalements.
Merci Sarah Guibaudeau. Un appel à la grève a été lancé pour vendredi, veille des vacances, par les syndicats du périscolaire parisien. Ils veulent protester contre l'absence d'amélioration des conditions de travail sur fond donc d'accusations de violences sexuelles à l'encontre d'animateurs. À l'Assemblée nationale, l'examen des textes sur la fin de vie se poursuit en deuxième lecture, et voilà pourquoi du côté de la société civile, une réunion était organisée ce matin tout près de l'Assemblée par un collectif de personnes malades, les éligibles et leurs aidants. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour Jérôme.
Ces malades en fin de vie et leurs proches veulent faire entendre leur voix et plaider la cause des soins palliatifs.
Oui, exactement. Dans la salle, des personnes très lourdement handicapées. Certaines sont atteintes de la myopathie de Duchenne, la maladie de Charcot. Des éligibles, comme ils se font appeler, car ils rempliraient les critères prévus à ce stade par la loi pour bénéficier d'une aide à mourir. Et ils y sont totalement opposés, résume Magali Janteur, à l'origine de ce collectif des éligibles et leurs aidants.
Nous y sommes opposés puisque nous sommes convaincus de la qualité inviolable et inaliénable de la vie. Et donc ce que nous défendons, c'est plutôt une aide à vivre qu'une aide à mourir. Notre sujet, c'est de défendre la vie, quelle que soit la qualité et la condition du citoyen.
L'écrivain Michel Houellebecq est venu soutenir ce mouvement de patients. Soutien aussi de politique avec la présence de l'eurodéputé de droite catholique assumé François-Xavier Bellamy ou encore la députée Renaissance Annie Vidal qui redoute, je cite, une dérive éthique, crainte partagée par Clémence, une jeune femme atteinte d'un cancer en phase avancée.
Quand on se sent déjà un poids, quand on se sent déjà un peu à l'extérieur de la société, cette réflexion du fait qu'en fait, peut-être qu'il vaudrait mieux partir, en fait, on l'a tout le temps. Et en fait, petit à petit, sociétalement, on va avoir un discours qui de plus en plus dit aux plus fragiles bah, « à votre place, on partirait ». Et d'ailleurs, en fait, on peut vous faire partir.
Tout comme les partisans de l'aide à mourir, ce collectif de patients promeut un développement des soins palliatifs. C'est d'ailleurs ce qui fera l'objet des débats cet après-midi à l'Assemblée nationale.
Alice Cachaner avec les moyens techniques de Clément Vuillet. Il s'appelle Issa, il a aujourd'hui 3 mois, il est né en novembre dernier à l'hôpital de Haute-Pierre. à Strasbourg. Et c'est un bébé dont la vie relève du miracle. C'est une première médicale mondiale qui lui a permis de voir le jour. Car Issa souffrait d'une tumeur vasculaire complexe et elle a pu être soignée in utero. Patrick Janton a rencontré sa maman Viviane à Mulhouse.
C'est une sage-femme mulhousienne qui suivait la maman qui a détecté quelque chose de suspect lors d'une échographie. Edgar Montoya Ramirez, directeur du pôle médical femme-mère-enfant de l'hôpital de Mulhouse, a mis en évidence le problème lors d'un examen complémentaire.
J'ai découvert cette masse vasculaire qui était de 8-9 cm.
Le centre de référence des anomalies vasculaires superficielles des Hospices civils de Lyon a proposé alors de recourir au traitement anténatal sous la direction du professeur Laurent Guibaud, le seul moyen de sauver ce bébé. Une équipe médicale au CHU de Strasbourg a administré le traitement dès le 8e mois et préparé l'accouchement. Chris Minella, médecin au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
Le médicament, il est connu pour son efficacité dans ce type de maladie vasculaire. Et là, par contre, c'est effectivement un premier cas mondial où on l'a instauré pendant une grossesse. La maman a pris le traitement, ça passe le placenta, ça va chez le bébé et du coup, ça a son impact en une surveillance aussi échographique pour voir est-ce que la tumeur, elle est restée stable.
Le petit Issa est né sans risque vital engagé. Il est suivi à l'hôpital de Mulhouse où nous l'avons rencontré avec ses parents Viviane et Sina.
Ça a été très difficile à entendre. On nous a demandé même s'il voulait arrêter la grossesse. Mais bon, il était hors de question. Je voulais donner une chance à petit bout de chou de s'en sortir et il s'en est sorti comme un champion. Il est sorti, il a crié de toutes ses forces. Je suis là, je vais vivre. Aujourd'hui, on est heureux.
La joie de Viviane au micro de Patrick Janton, ici Alsace. Les Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina, les hockeyeurs français font leur retour dans cette compétition. Après des années d'absence, vont-ils faire un petit tour et puis s'en vont? C'est toute la question. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour.
Défaite déjà pour les hockeyeurs français face à la Suisse, la République tchèque, le Canada. Ils sont opposés à l'Allemagne. Existe-t-il encore une petite chance de passer au tour suivant ?
Oui, Jérôme, il existe encore une petite chance. Elle est pas grande parce que les Français sont menés 3-1 actuellement sur la glace ici à Milan face à l'Allemagne. L'Allemagne, sur le papier et sur la glace, est meilleure que la France, mais franchement les Bleus peuvent le faire. Ils étaient menés 3-0, beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop d'indiscipline côté français. C'est un peu ce qui marque ces JO depuis le début de la compétition. Mais Pierre-Édouard Belmar, le capitaine de cette équipe française, le vétéran qui découvre les JO à près de 41 ans, eh bien a marqué le petit but de l'espoir il y a quelques minutes déjà. Il reste 6 minutes à jouer dans le deuxième tiers. On a basculé dans la deuxième moitié de ce match et les Français ne sont qu'à 2 buts. Ça paraît beaucoup, c'est peu aussi. On verra si les Bleus sont capables de faire basculer ce match du bon côté et d'accrocher les Allemands pour essayer de s'offrir un quart de finale. Allez, Belmar ! Oh, le tir passe à côté du but de Grubauer. 3-1 pour l'Allemagne. Il reste 5 minutes 30 dans ce deuxième tiers.
Merci Xavier Monferrand, en direct de la patinoire de Milan avec les moyens techniques de Frédéric Kérou. Espoir de médaille cet après-midi en biathlon pour les Français. Le relais homme, les Français sont favoris ainsi que les Norvégiens et les Suédois. Ce nouveau revirement à l'Olympique de Marseille. Le directeur du football de l'OM, Mehdi Benassia, avait présenté sa démission la semaine dernière. Le propriétaire du club, l'américain Frank McCourt, le laisse en poste au moins jusqu'au mois de juin. Frank McCourt qui est attendu sur place pour remettre de l'ordre dans un club en crise depuis son élimination en Ligue des Champions. Dans cette compétition, la Ligue des Champions, 8e de finale aller ce soir entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Le match se déroule en principauté. Et puis cette information qui va ravir tous les fans de volley, la star du volley français, Ervin Gapet, qui joue en ce moment en Turquie, va revenir en France. Au Tour Volleyball, il vient de signer pour 2 saisons à l'âge de 35 ans, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin. Puis à partir de 13h30, les champions olympiques de danse sur glace, Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry sont nos invités. 01 45 24 7000 pour être avec nous. Questions sur leur parcours ou sur leurs prestations de la semaine dernière aux Jeux d'hiver par exemple, si vous souhaitez échanger. 13h45, notre feuilleton avec notre pianiste, gardien d'immeuble. Et puis à 13h50, c'est la France, Cyril Petit, Julien Baldacchino. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
De Saint-Malo en Ille-et-Vilaine à Toulouse en Haute-Garonne en passant par Strasbourg dans le Bas-Rhin. Je vous parle, Jérôme, des utilisateurs de transports en commun qui donnent la voix VOI.
X.
Voilà ce qu'on entend dans les transports. Les à l'arrêt, c'est une chanson. Aujourd'hui, Julien Baldacchino, on trouve un homme de théâtre.
L'auteur et metteur en scène Thomas Quillardet qui nous parle de la chanson California de Mylène Farmer qu'il aime tellement qu'il lui a consacré une pièce de théâtre.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Petit France Inter et le Château de Versailles présentent...
Savez-vous que Louis XV a créé le premier réseau d'espionnage du monde ?
L'or Grand Besançon.
Et que le roi Louis XVI s'est fait griffer de popotin par son chat aux toilettes ? Et que les femmes de Paris ont fait basculer l'histoire de la monarchie ?
Eh, Laure ?
Oui ?
Bah là, normalement, c'est à moi de parler.
Ok, ok.
Les Odyssées...
Le podcast d'aventure pour les 8-12 ans.
Ok.
De Louis XIV à Marie-Antoinette, je vous raconte follement, passionnément, toute l'histoire, ou presque, du Château de Versailles.
Les Odyssées du Château de Versailles.
5 nouveaux épisodes à retrouver sur Mon Petit France Inter et à télécharger sur l'appli Radio France.
Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS pour trouver mon chemin, mais le plus important, c'est que j'ai le DAB+. La radio en DAB+. Grâce au DAB+, j'écoute la même radio sur tout mon trajet, sans jamais changer de fréquence, avec une qualité sonore exceptionnelle et davantage d'infos sur ce que j'écoute. Et puis, il y a plus de choix de radio.
DAB+. DAB+. 3 lettres pour une révolution de la radio.
Plus d'infos sur ensemble.le.dab+.fr.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo. Torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Ça ne saute pas aux yeux. Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Gérard.
Mais la journée est plus calme.
Oui, et il faut en profiter car cette pause bienvenue est de courte durée. Une nouvelle perturbation atlantique arrive par la façade ouest en fin d'après-midi. Les nuages bien denses s'installeront de la basse Normandie aux Pyrénées. Les plus localement faibles reprendront par la Bretagne et les pays de la Loire. Elles vont progressivement gagner l'ouest et le nord-ouest en cours de journée. Météo France maintient ses vigilances pour des crues. 12 départements de l'ouest, de l'Ille-et-Vilaine aux Landes en orange et toujours Gironde, Maine-et-Loire et Lot-et-Garonne en rouge. La neige continue de tomber aussi près des frontières de l'Est, vers 600 mètres sur les Vosges, 800 mètres sur le Jura et les Alpes. Les deux Savoies restent en vigilance orange pour des risques d'avalanche. Et puis sur le reste du pays, le temps aujourd'hui est souvent sec, avec même de belles périodes de soleil sur le pourtour méditerranéen, comme sur l'extrême nord.
Toujours de la douceur.
Toujours. Les températures sont même élevées pour un mois de février, au point que dans le sud-est, il règne comme une ambiance quasi printanière, avec 15-18 degrés du littoral méditerranéen à la Corse. Ailleurs, vous pourrez compter sur 10 à 15 degrés. Il fait un peu plus frais au nord-nord-est avec 5 à 10 degrés.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Laurence Fournier-Baudry.
Bonjour.
Bonjour Guillaume Cizeron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Champion olympique de danse sur glace. C'était la semaine dernière à la patinoire de Milan. Nous y étions à l'instant pour le hockey sur glace. Vous, c'était la danse sur glace. Et vous voilà de retour en France pour partager vos deux médailles d'or dans les prochaines minutes avec les auditeurs de France Inter qui peuvent vous interroger. 01 45 24 7000 pour être avec nous. Et puis vous passez via l'application Radio France et l'onglet réagir. Et puis on aura une petite surprise pour vous. Mais je ne vous dis que ça, ce sera dans une grosse dizaine de minutes. Avant la surprise, revenons sur cette soirée, sur cette médaille. Guillaume Cizeron, c'est votre deuxième titre olympique, votre deuxième médaille d'or olympique. Quelle est la saveur de celle-ci par rapport à la précédente décrochée il y a 4 ans ?
Je dirais qu'il y a 4 ans, c'était vraiment l'aboutissement d'une carrière de 20 ans avec Gabriela. Donc c'était une médaille qui était très attendue. On l'avait manqué de peu en 2018. Là, c'est vraiment une aventure complètement différente, beaucoup moins attendue. Je n'aurais pas imaginé être ici. J'étais prêt à prendre ma retraite, donc ça m'a. C'était un challenge un peu impossible qu'on s'était fixé.
Laurence Fournier-Baudry, vous, c'est votre première médaille olympique. Qu'est-ce qu'elle représente ?
C'est l'accomplissement d'un exploit. C'est le rêve d'une vie et puis d'avoir réussi à entreprendre ce beau projet, cette belle aventure. En moins d'un an et d'atteindre la médaille, c'est très unique.
Avec cet accent du Québec, puisque vous êtes originaire du Canada, mais que vous défendez les couleurs de la France et les auditeurs, téléspectateurs qui étaient 6 millions la semaine dernière pour regarder décrocher la médaille d'or ont appris à connaître votre accent et à l'apprécier. La danse sur glace, ce sont deux programmes. Il y a la danse rythmique, il y a la danse libre. Pour la danse rythmique, vous aviez choisi ce titre de Madonna.
«
le morceau Vogue. De quel programme, en y réfléchissant, vous êtes le plus fier aujourd'hui?
Je dirais que les deux, c'est un peu comme des deux bébés.
Ouais.
On aime vraiment beaucoup les deux, on y a mis beaucoup de cœur. Il y en a un qui est beaucoup plus, comment dire, fun, ouais, vraiment plus rapide, plus péchu, et l'autre qui est vraiment plus dans l'émotion, dans la lenteur, dans
l'intimité.
C'est ça, dans l'intimité, exactement.
Madonna vous a félicité, je crois, Laurence Fournier-Baudry.
Oui, on a reçu un beau message. Elle avait, je crois, prédit qu'on allait gagner l'or. Donc, on avait fini premier après la danse rythmique et elle nous a envoyé un beau message pour je crois qu'on était très fiers.
Est-ce que vous pouvez nous parler l'un de l'autre? Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas vos qualités de patineur, on dit de vous, Guillaume, que vous êtes extrêmement créatif. Laurence, est-ce que c'est l'un de ces traits particuliers, créatif sur la glace?
Ben, je crois que c'est un grand créateur. Il y a une vision artistique qui est poussée et il veut toujours rendre les choses uniques à lui-même, mais en repoussant un peu les limites. Donc, c'est une de ses grandes qualités, sa grande vision artistique.
Parfois, il arrive avec des idées et vous dites, mais ça, c'est fou, c'est pas possible.
Oui. Oui. Il dépasse le cadre. Je crois qu'il est capable d'avoir son propre style à lui. C'est ce qui fait en sorte que plusieurs patineurs l'admirent pour ça.
Guillaume, même chose. Pour Laurence, on dit que Laurence est une technicienne qui maîtrise l'art du patinage à la perfection. Est-ce que vous validez? Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, je valide, technicienne, mais pas seulement. Je pense que c'est une patineuse très complète, autant d'un point de vue technique que athlétique, qu'émotionnel. Je pense qu'elle est capable justement de transcender la technique pour nous amener les plus belles émotions.
Donc on l'a peut-être réduit un peu à ce profil-là
elle est exceptionnelle dans sa technique, mais c'est la technique qui permet d'aller dégager de l'émotion. C'est un peu comme la danse classique. Tant que la technique n'est pas parfaite, on ne peut pas atteindre cette espèce d'état de grâce. Et là, elle le fait très très bien.
Et vous l'avez atteint tous les deux dans cet alliage qui a pris très vite, en accéléré. Un an, on peut dire que vous revenez de loin. De très très loin tous les deux. Pour comprendre, il faut remonter un petit peu en arrière. Guillaume Cizeron, vous avez été sacré il y a 4 ans avec Gabriela Papadakis, vous l'avez rappelé. Mais fin 2024, après des années, votre duo sportif explose. Elle a depuis écrit un livre dans lequel elle vous accuse d'emprise. Vous lui avez répondu, dénonçant une campagne de dénigrement et menaçant de déposer plainte. Et dans le même temps, Laurence, vous patinez avec votre compagnon Nikolaj Sørensen, il est danois. Et puis fin 2024, il est suspendu pour au moins 6 ans car une enquête l'a reconnu coupable d'agression sexuelle sur une entraîneuse de patinage artistique aux États-Unis en 2012. Lui, il nie les faits. Il fait appel, la procédure est toujours en cours. Mais enfin, le résultat, c'est qu'il y a un an, il ne peut pas faire les Jeux. Donc début 2025, il y a un an, vous êtes tout seul, tous les deux. Est-ce qu'à un moment, vous êtes dit, Guillaume Cizeron, c'est fini, les Jeux, ce sera sans moi, c'est sûr?
Oui, bien sûr. Je pense que tous les deux, on était, comment dire, prêts à s'arrêter. On avait eu des belles carrières. Je pense que c'était l'idée de se repartir sur cette page. C'était vraiment pour le plaisir de patiner encore un peu, parce qu'on sait qu'en tant qu'athlète, on peut pas pratiquer notre sport ad vitam aeternam. Ça a une date de péremption.
C'était la dernière danse, peut-être.
Et là, on s'est dit pourquoi pas pouvoir se donner encore du plaisir, et on s'est un peu offert ce cadeau mutuel.
Vous aviez fait une croix sur les Jeux, Laurence Fournier-Baudry?
Fait une croix, non. Je crois que je réfléchissais à voir comment je voulais finir ma carrière, et puis quand Guillaume m'a proposé cette belle opportunité, j'ai décidé de me lancer à fond.
C'est Guillaume qui vous appelle parce que vous vous connaissez depuis très 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 longtemps?
Oui, oui, on se connaît depuis plus de 15 ans. Puis il m'a lancé un peu cette idée folle lors d'un dîner. Donc c'était une belle surprise. Puis c'est une belle surprise qui nous a amené ici aujourd'hui.
Mais il y avait cette contrainte de temps. Un an, qu'est-ce que ça change dans la préparation? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez écartées, des envies, en vous disant mais non, là il faut être prêt très très rapidement?
Non, je pense qu'on s'est autorisé à être très ambitieux à tous les niveaux. C'est vrai qu'on avait, quand je propose ça à Laurence, moi, je me suis pas entraîné à haut niveau depuis 3 ans. On n'a jamais patiné ensemble du tout, mais pourtant on y croit. Je pense qu'on a vu le potentiel qu'on allait pouvoir avoir ensemble. Et on a quand même pris notre temps pour apprendre à se découvrir, à se connaître vraiment, à développer cette intimité, cette osmose qui fait qu'on a pu arriver ici aujourd'hui.
Comment se passent les premières compétitions ensemble, Laurence Fournier-Maudry ?
Toutes les premières compétitions étaient un peu vues comme des tests. C'était première compétition, premier stress, puis on a relevé le défi avec beaucoup de plaisir. Lors de notre première compétition, on a eu un problème avec le patin de Guillaume et on a réussi à très bien performer. Ça nous a donné beaucoup de confiance pour la suite.
Est-ce qu'on peut patiner, est-ce qu'on peut être sportif de haut niveau avec l'envie de prouver aux autres? Est-ce que c'est un bon moteur au fond? Je sais pas si c'est de la revanche, mais est-ce que ça c'est quelque chose qui motive ou bien c'est un sentiment un peu négatif qu'on essaye de mettre de côté, Guillaume Cizeron, parce qu'il y avait le regard extérieur, il y avait aussi de l'hostilité autour de vous.
Oui, je pense qu'on réalisait pas à quel point ça allait déranger le fait qu'on prenne cette décision-là, mais... on nous avait prévenu, on nous avait dit que ça allait pas être facile et je pense que nous on s'est lancé dans le projet avec une grande naïveté, puis je pense qu'on savait dans notre cœur que pourquoi on était là et pourquoi on allait reprendre le patinage ensemble. On voulait prendre du plaisir, on voulait danser parce qu'on aime tellement ce qu'on fait et on voulait avoir la chance de le faire ensemble encore un petit peu.
On avait vraiment la motivation intrinsèque de voir à quel point on pouvait évoluer en tant qu'athlète ensemble, puis on avait la curiosité de voir où est-ce que notre couple pouvait aller.
Quand on patine comme ça en duo, est-ce qu'on a le droit de dire à l'autre « là j'ai peur, là je ne sais pas si ça va le faire en fait ». Est-ce qu'on s'autorise ça, Guillaume Cizeron ?
Oui, bien sûr, je pense qu'on, en tant qu'athlète, c'est un petit peu un exercice mental de se pousser. On pousse nos limites physiquement, mais il y a aussi tout un aspect psychologique. Et je pense que justement, on a été capable de partager cet aspect-là grâce à notre complicité, notre amitié, notre confiance l'un dans l'autre. Je pense qu'on a été capable de passer à travers ces épreuves beaucoup plus facilement parce qu'on communique beaucoup. Je pense qu'on s'entraide à travers toutes ces étapes qui sont quand même difficiles dans le sport de haut niveau, surtout sur une Olympiade.
Donc vous revenez de très loin, je l'ai dit, vous gagnez devant le duo américain, le couple star aux États-Unis, Madison Schock et Evan Bates. Je vous livre le commentaire de la chaîne NBC qui résume un peu l'état d'esprit général, je les cite, « Malheureusement pour les premiers, les seconds ont tout de même gagné. Les commentaires, surtout américains, ont été extrêmement violents, Laurence Fournier-Baudry. »
Je crois que c'est certain qu'il peut avoir une déception quand on arrive deuxième. Nous, on était très contents d'arriver premier.
Je me doute.
très, très, très contents. On avait beaucoup de gratitude envers toute notre équipe qui a fait en sorte que cet exploit a été atteint. C'est ça.
Je pense que ça a pu choquer, en fait, un petit peu le fait que les gens se disent « Mais comment ils ont pu faire ça en si peu de temps ?» Ouais. Alors qu'il y a des couples derrière qui sont ensemble depuis 15 ans. Mais comme Laurence l'a dit, je crois qu'on était très confiants de nos performances. Puis on a réussi à se mettre dans une bulle et à quand même profiter, parce que c'était avant tout le but des Jeux, c'est de profiter de cette expérience olympique ensemble.
Laurence Fournier-Baudry, vous avez un physique qui détonne dans le patinage, parce que vous avez un patinage qui est extrêmement physique. Vous êtes plus musclée, plus grande que la moyenne des patineuses. Est-ce que c'est aussi un message pour des jeunes filles qui voudraient faire du patinage artistique et que peut-être on met encore un peu de côté parce qu'elles n'ont pas le physique qu'on imagine ou qu'on rêve quand on est entraîneur ou qu'on est chorégraphe? On peut être championne olympique.
Mais je crois que un des objectifs que j'avais était d'inspirer justement la relève. Puis d'avoir un exemple, de voir que c'est possible, c'est le fait d'être ici, puis de qu'on soit aussi athlétique en étant capable de démontrer des qualités artistiques également et émotionnelles, ça forme le tout chez un patineur.
Alors, je l'ai dit, 6 millions de téléspectateurs devant leur écran la semaine dernière, dont un qui habite à Genilac. J'espère que je le prononce bien. C'est près de Saint-Étienne, c'est pour vous, Laurence. Cet auditeur tenait à vous féliciter, on l'écoute.
Bonjour Laurence, c'est ton grand-papa. Alors, écoute, je ne tarie pas d'émotion devant vos exploits. On est tous les deux, Janine et moi, absolument ravis de ce que vous avez fait. On a été absolument enchantés parce que vous êtes en osmose totale. On a trouvé ça extraordinaire parce que vous épousez le physique de l'autre et puis vous ressentez dans tous vos mouvements. C'est extraordinaire, c'est inattendu.
Et donc, est-ce que le fait que Laurence soit devenue une citoyenne française, ça vous a donné des idées à vous aussi, Daniel ?
Ben, ça m'a donné l'idée de demander ma nationalisation aussi. D'abord parce que je pense que dans l'avenir, elle sera appelée peut-être à vivre en Europe et j'aimerais bien qu'on puisse établir des choses ici. Ce serait bien qu'on soit compatriote puisqu'elle l'est maintenant.
Daniel Fournier, c'est votre grand-père qui répondait à Cécilia Arbona, Laurence Fournier-Baudry. Oui. Il s'est installé dans la Loire, c'est ça?
Ben, il est là depuis très longtemps à Genilac. Ça doit faire plus de 20 ans, je dirais. On est allé visiter souvent, on va le visiter souvent. Puis il m'a suivi toute la saison. Il était très content quand il a su que je représentais la France. C'est un de mes plus grands fans.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir cette médaille avec la France, justement, qui n'est pas votre pays de naissance?
Ben, pour moi, c'est un grand honneur. La France, c'est une deuxième famille. Je suis très émue de faire partie de ça et d'être capable de faire briller les couleurs de la France à l'international.
Donc, vous allez le soutenir dans sa demande d'obtenir la nationalité française.
Ah, c'est certain.
On a beaucoup d'appels, beaucoup d'auditeurs qui vous remercient. Robert a choisi le roi. J'ai vu votre prestation. C'était tellement magnifique. Et puis, on a une question de Dominique de Toulouse qui a vu une autre épreuve de patinage artistique en couple hier soir, mais pas la même que la vôtre. Est-ce que vous pouvez lui expliquer quelle est la différence, Guillaume ou Laurence?
Alors, le couple artistique et la danse sur glace sont deux catégories, deux disciplines complètement différentes. Les couples artistiques, ils apprennent d'abord individuellement à sauter, donc à effectuer des ouais. sauts, exactement comme les patineurs individuels, et ensuite à faire des lancers, des twists, qu'on appelle, comme ils lancent la fille au-dessus de leur tête. Nous, on n'apprend pas à faire des sauts, ni à faire des twists. Nous, c'est vraiment un peu plus comme du ballet sur glace, et c'est beaucoup inspiré, la source de la danse sur glace, c'est la danse sportive, la danse de salon. Donc c'est là que ça a commencé, puis dérivé tranquillement vers aussi la danse classique, la danse contemporaine, donc on est vraiment sur des éléments techniques complètement différents, c'est à l'essence même une technique de patinage très différente, il y a pas le même, c'est même pas exactement les mêmes patins.
On a fait de la pédagogie aussi ensemble, vous étiez parfaits. Merci à tous les deux, Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry, champion olympique de danse sur glace. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce 13-14, 13h47. Une semaine dans leur vie, on reste avec un artiste, Audric De Oliveira, virtuose du piano, devenu gardien d'immeuble car il ne parvenait pas à vivre de sa musique. Mais malgré ses tâches, le ménage, la réception des colis entre autres, il n'a pas renoncé à composer et on le retrouve avec notre reporter Vanessa Descouroux.
Vous avez combien d'appartements ?
Il y en a une trentaine, avec deux immeubles différents, donc celui-là qu'on appelle le bâtiment B, avec des petits appartements d'environ 40 mètres carrés sur trois étages, et un gros bâtiment ici de 5 étages, où ce sont des grands appartements très luxueux de environ 200 mètres carrés, voilà. Une journée type, elle commence à 8h du matin. Je commence par faire un tour général de l'immeuble pour ramasser d'éventuels papiers laissés tomber par hasard par-ci par-là, des crottes de chiens, ça arrive aussi souvent. Le lundi, en général, c'est ménage de l'immeuble, aspirateur, serpillière, les vitres. Et c'est parti, les courriers. Ouais, donc il y a des locataires qui ne regardent pas leur courrier là vraiment depuis des mois, mais ils sont vivants, je les vois souvent. Je leur dirai. Et ensuite, bien écoutez, je dois être présent dans la loge pour recevoir les colis qui arrivent toute la journée et répondre aux certaines demandes des locataires. Pendant ma longue pause de l'après-midi, oui, je la passe au piano. Rien d'autre, piano, composition, cours de piano. J'intercale souvent des tâches quotidiennes avec un peu de musique, c'est-à-dire que je vais faire l'aspirateur sur deux étages, je vais un peu souffler dans ma loge et jouer 10-15 minutes et j'y retourne. Voilà, ça ponctue toute ma journée. Moi, mon objectif depuis que je suis petit, depuis que j'ai commencé, c'est toujours de vivre de ma musique. Après, mon chemin est peut-être atypique et différent des autres, mais j'y crois toujours. Mais évidemment, l'objectif, c'est de quitter ce petit cocon qu'est ma loge et passer de la loge du gardien à la loge du pianiste dans les salles de concert.
Comment ça se passe avec les voisins ?
Eh bien, écoutez, j'ai beaucoup de chance. Alors, en effet, il fait très chaud l'été. J'ouvre les fenêtres, mais je n'ai jamais de plainte. Les locataires de l'immeuble adorent. Quand je joue, souvent, je vois des locataires de l'immeuble passer devant ma fenêtre. Ils s'arrêtent souvent, quelques secondes ou quelques minutes ou même plus longtemps. Ils s'assoient sur le rebord et ils m'écoutent. Et, soit ils passent leur chemin, soit ils vont toquer à ma porte pour me dire ouais, « c'était trop beau, c'était quoi ?» Donc voilà, de fil en aiguille, ça crée beaucoup de liens aussi, oui. Dans la cour aussi, il y a les fenêtres d'un institut de beauté. Et les esthéticiennes adorent ouvrir les fenêtres pour les clientes la journée pendant leurs soins. Elles adorent.
Je m'appelle Noémie et je travaille juste en face de la loge d'Audric. On a la chance des fois d'entendre un peu des petites mélodies, donc on aime bien ouvrir la fenêtre pour encore plus profiter de son talent en fait, de pianiste. Des fois on a des journées très dures, très longues, et voilà, ça met un peu d'apaisement dans nos quotidiens, donc on apprécie. C'est vrai que nos clientes des fois entendent de temps en temps la mélodie quand elle passe à côté, et c'est vrai que ça apporte du cachet un peu à l'expérience qu'on propose aux soins, donc parfait pour nous, et c'est vrai que ça accentue un peu ce côté bien-être qu'on propose avec notre spa, donc tout se passe très bien, vraiment on est toutes ravies. On a appris qu'il avait fait le conservatoire, donc il avait déjà son piano, et que malheureusement, il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. C'était le bon plan pour à la fois avoir un endroit où mettre son piano, et en même temps de travailler sur sa passion après son travail de gardien. Donc c'est à peu près ce qu'on sait, mais je trouve ça très atypique, et je pense que ça devient un peu aussi son identité, et ça lui va très très bien.
Feuilleton réalisé par Vincent Godard, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mardi 13h51. Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de voix.
Et je vous emmène, Jérôme, à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, et on monte dans le bus. Depuis début février, les annonces sonores indiquant les arrêts sont prononcées par 10 habitants et agents du réseau local de transport sélectionnés après un appel à candidature. Alors parmi eux, il y a Nadine, 62 ans, comptable pour le réseau depuis 41 ans, qui laisse une belle empreinte vocale à l'heure de sa retraite. Et puis, il y a aussi Soren, 15 ans, le plus jeune. « Je connais toutes les lignes par cœur, et encore plus la 2 que je prends tous les jours pour aller au lycée », dit-il dans Ouest France. Même initiative à Strasbourg, ou pour la mise en service du nouveau tram l'été dernier. 6 voix d'habitants ont été retenues parmi 4500 candidatures pour des annonces d'environ 2 secondes et demie qui seront diffusées 150 000 fois par an.
Pourquoi ces communes font-elles ces annonces avec des habitants ?
Précisons d'abord, Jérôme, que souvent les messages sont enregistrés par des comédiens professionnels et parfois par des voix de synthèse générées par intelligence artificielle. Là, le choix est de jouer la proximité et l'incarnation. Noémie Vincent, responsable de l'opération à Saint-Malo, m'a résumé les objectifs. Associer les voyageurs à leur transport du quotidien, lancer une initiative positive, proposer une ambiance plus chaleureuse et plus humaine que de l'IA, et puis aussi, Jérôme, corriger quelques erreurs de prononciation des voix synthétiques qui agaçaient fort logiquement quelques malouins.
Précisons, Cyril, que ces annonces sonores sont obligatoires.
Oui, même si certains diront sans doute que c'est moins important que la sécurité ou la ponctualité, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose en effet que l'information voyageur soit accessible à tout le monde, également de manière visuelle et sonore.
Et à Brest, qui vient d'inaugurer sa deuxième ligne de tram, on va plus loin.
Oui, comme l'indique la réalisatrice de ces annonces, le nom de la station est dit deux fois, avec la voix masculine et avec la voix féminine, deux fréquences différentes pour permettre aux personnes malentendantes de capter peut-être l'une ou l'autre plus facilement quant aux voix. Elles sont assurées, Jérôme, par deux journalistes du réseau ici, l'un en français et en anglais, l'autre en français et en breton. On écoute Johan Bizien de Ici Brésisel qui guide les voyageurs à Brest.
Moi, je trouve ça vraiment, vraiment très, très émouvant d'être comme ça dans la vie des Brestois, finalement.
Arzokenta, Arzadiben, Céachulacaval.
À Toulouse, les annonces sont aussi en occitan et à Paris, on les entend en anglais, allemand, espagnol, italien et parfois chinois, japonais, portugais, néerlandais et coréen. Elles sont assurées par une trentaine de contrôleurs et agents bénévoles de la RATP, parmi eux Annette, assistante d'exploitation sur la ligne 4 du métro parisien, chanteuse dans une chorale, elle a enregistré des annonces dans sa langue d'origine, l'allemand, et témoigne. Je trouve important d'informer les voyageurs avec de réelles voix humaines plutôt que des voix de synthèse. Cela rend le trajet plus chaleureux.
Merci Cyril Petit du journal Ouest France. Vous descendez là et c'est Julien Baldacchino qui monte à bord. C'est une chanson. Julien, aujourd'hui un dramaturge et metteur en scène.
Thomas Quillardet qui présente actuellement au Théâtre du Rond-Point à Paris un spectacle nommé Amodou, où l'histoire d'un ado fan de Mylène Farmer qui nous emmène dans ses rêveries. Eh bien Thomas Quillardet, il est lui-même fan de Mylène Farmer et c'est d'une de ses chansons dont il a choisi de nous parler, California.
J'avais 16 ans, 15-16 ans peut-être, et j'écoutais pas mal Énergie, les radios de l'époque. Et effectivement, tournait beaucoup ce titre. Et j'ai découvert que c'était Mylène Farmer beaucoup plus tard. Parce que j'aimais beaucoup Mylène Farmer quand j'étais vraiment enfant, avec Libertine, ou Pourvu qu'elle soit douce, ou Désenchantée. Et c'est vrai qu'elle a disparu pendant un moment, pendant 6 ans, elle a plus fait de disques. Et moi, je l'avais un peu oublié aussi. Et tout d'un coup, au bout de la 6e, 7e écoute, je me suis dit, mais c'est Mylène Farmer qui est de retour. En entendant California, et j'ai accroché tout de suite. Les paroles de Mylène Farmer sont quand même assez sophistiquées, assez littéraires. Et voilà, toutes les subtilités de Pourvu qu'elle soit douce, de Libertine, même Désenchantée, je ne les percevais pas vraiment. Et California, j'ai vraiment entendu les paroles et elles m'ont vraiment emmené pour le coup loin en Californie. Il y a des petits grillons au départ, puis après il y a une voiture qui ferme la porte. Et ce que j'entends, c'est le départ. Tout de suite, aéroport, aérogare, mais pour tout l'or m'en aller. Et voilà, c'était ma situation d'adolescent. J'avais envie de partir quelque part. J'avais envie qu'on m'emmène, j'avais envie de, ouais, peut-être une fuite. Enfin, comme tout ado, je pense qu'on a la nature de l'adolescence, c'est la fuite, c'est le départ, c'est aller ailleurs. Enfin, c'est des émotions comme ça qu'on ressent très fort quand on est ado. Et Mylène m'indiquait un chemin. En plus, elle démarre un petit peu sur une thématique un peu d'ennui, un peu de langueur, comme une rengaine, comme ça. Et après, tout ce qu'elle racontait sur la Californie, ça m'attirait énormément. Puis c'est quand même les mots sexy, sexe, qui résonnaient un peu, pas mal. Dans mon corps adolescent qui se transformait. Adolescent, ça m'a énormément apporté, marqué. Bon, je l'écoute moins maintenant, mais fan un jour, fan toujours.
Une chanson, Julien, qui cite dans ses paroles le pont Mirabeau d'Apollinaire. Vienne la nuit et sonne l'heure.
Et ses références littéraires ont marqué Thomas Quillardet, tout comme la douceur qui, pour lui, se dégage de la chanson.
Si je prends du recul sur tout l'univers de Mylène, c'est quand même la douceur qui arrive pour moi en premier. Peut-être plus parce qu'elle me procure. C'est-à-dire le fait de savoir qu'elle est là, qu'elle a été là, qu'elle a créé des choses qui vont rester, que je pourrais écouter toute ma vie, ça me procure une certaine douceur, un certain bien-être. Pour des ados, enfants, même adultes, un petit peu éloignés de la culture, où il y a des références à Edgar Allan Poe, à Baudelaire, à des films. Moi, elle m'a emmené sur des territoires artistiques que j'ignorais, comme voir Barry Lyndon, justement, de Kubrick, parce que ça ressemblait un peu au clip de Libertine. Moi, elle m'a emmené vers des auteurs comme ça, même Edgar Allan Poe, qui n'est pas spécialement enseigné à l'école.
Dans la pièce, il y a un moment où le personnage dit « Je voudrais que tout le monde rende ses disques pour qu'il n'y ait plus que elle et moi, quelque chose d'exclusif. »
Je suis allé la voir en concert beaucoup plus tard, en 1999, et j'ai ressenti ça. Pas à ce point-là, je l'ai poussé un peu dans le spectacle, mais oui, cette espèce de naïveté de se dire « Ah d'accord, je suis pas tout seul ». Et cette impossibilité. En fait, la petite frustration du fan, je trouve, c'est que j'aimerais juste lui dire merci. Mais physiquement, mais juste, voilà, tranquille, avec un bouquet de fleurs, lui serrer la main peut-être, pour juste lui dire merci. Et c'est impossible. Parce que je la rencontrerai pas, ou jamais, enfin, je sais pas ce que la vie décidera, mais c'est une frustration quand même de pas pouvoir dire merci à quelqu'un qui compte autant. «
California, Mylène Farmer, c'était le choix de Thomas Quillardet.
Et son très beau spectacle Amodou se joue à Paris au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 22 février. Ce soir, pour les fans les plus chevronnés, la représentation est suivie d'un karaoké Mylène Farmer qui se fera dans le théâtre.
Parfait, soyons nombreux, allez voir Thomas Quillardet et sa pièce ce soir. Merci Julien Baldacchino et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Je cours pour le karaoké Mylène Farmer.
Oui, enfin avant ça, il y a quand même une émission.
Déjà. Oui, alors
vous l'oubliez pas. On va parler. Et vous parlez de la préhistoire.
Voilà, préhistoire des femmes.
Soyez là dans quelques minutes.
Oui, absolument.
Dans la Terre au Carré.